talmudique. Paul Salmona, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wacknin.
Paul Salmona, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de l'archéologie du judaïsme en Europe, ce livre collectif que vous avez dirigé avec Philippe Blanchard et Amélie Sagasser, paru aux éditions du CNRS. Je rappelle que vous êtes directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme et spécialiste d'archéologie préventive. Nous avons découvert avec vous la semaine dernière les avancées de l'archéologie du judaïsme, les nouvelles méthodes, les mises en œuvre et ce que vous avez appelé l'élargissement de la focale à l'échelle européenne. Un ensemble d'éléments qui permet une vision plus globale de la vie des sociétés juives sur l'ensemble du continent. Le film que nous avons présenté la semaine dernière, The Dig, insistait très judicieusement sur le fait que les découvertes archéologiques modifient considérablement la perception que l'on a du passé et notre compréhension du monde de ce passé. Est-ce que les découvertes concernant le judaïsme en Europe ont modifié notre vision et compréhension du passé, non seulement des Juifs et du judaïsme en Europe, mais de l'Europe elle-même, Paul Salmona?
Oui, bien sûr. Si on considère que les Juifs sont présents en Europe depuis l'Antiquité, ce qui est une donnée au fond assez mal connue, notamment en France, hein, c'est ce que nous avons appelé une tache aveugle dans le récit national, mais c'est vrai en fait à l'échelon européen. Dans un domaine où les archives sont parfois très rares, hein, ce qui est vrai pour les Juifs dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, ou que les archives ont été détruites, hein, ce qui est arrivé en particulier pour les archives des communautés au moment de l'émancipation. Hein. On a peu de documents, donc tous les documents nouveaux qui peuvent apparaître, qu'il s'agisse des archives textuelles, mais là c'est plus rare, ou des archives du sol, sont essentiels. Je prendrai un exemple peu connu, mais qui est un exemple français, qui est dû à Gérard Naon, qui est celui du petit cimetière juif de la Bastide Clérance, hein, qui est un petit village dans l'arrière-pays bayonnais, à une journée de marche de l'Espagne. Un cimetière donc judéo-espagnol, judéo-ibérique, qui fonctionne de 1620 à la fin du XVIIIe siècle. De 1620 à 1659, tous les défunts ont des prénoms chrétiens et des noms espagnol ou portugais, López, Gómez, Enríquez, etc., etc. Et à partir de 1659, ils ont tous des prénoms hébraïques. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, une cinquantaine ou une quarantaine d'années avant leur mort, évidemment, au moment de leur naissance, on a assumé leur judéité, alors que jusque-là, ces migrants étaient arrivés, comme les y avait autorisé Henri II dans une lettre patente de 1550, comme nouveaux chrétiens, entre guillemets. En réalité, tout le monde savait qu'ils étaient juifs, hein. Mais ils pouvaient être convertis, ils pouvaient même être sincèrement convertis. Ils reviennent au judaïsme et à un moment donné, ils l'assument. Eh bien, ce qu'on voit sur ces stèles funéraires de la Bastide Clérance, il y en a une soixantaine que Gérard Naon a véritablement nettoyées, fait ressortir du sol parce qu'elles étaient envahies par les ronces, par les mousses, par la terre, etc., par l'herbe. Il a fait un véritable travail d'archéologue qu'il n'était pas tout à fait, mais et qu'il a documenté. Hein. L'archéologie, ça n'est pas seulement de faire sortir les vestiges du sol, comme le montre The Dig, hein, le film dont on a parlé la semaine dernière, c'est surtout de les documenter de manière extrêmement précise, de manière scientifique. Eh bien, on voit là comment, grâce au relevé et au décryptage de ces stèles funéraires, comment cette petite communauté revient de manière explicite, assumée dans l'espace social, au judaïsme. Et pour avoir un tout petit peu travaillé sur le sujet, on le voit beaucoup mieux, somme toute, dans le cimetière que dans les archives locales qui sont très maigres sur le sujet. Hein, la communauté s'évanouit à partir de l'émancipation. Ces juifs ruraux vont vers les villes. On imagine vers Bayonne, vers Bordeaux, vers Paris. C'est le cas d'ailleurs de toutes ces communautés rurales. C'est aussi vrai dans le Comté Avenessin. Et donc là, le document archéologique, le monument archéologique est fondamental.
En vous lisant et en lisant votre archéologie du judaïsme en Europe, j'ai pensé à ce que suggérait Jean Kelevitch, que j'ai entendu citer par Cynthia Fleury, qui dit « Le passé doit être futurisé, l'homme est moral » dans la mesure où il a le culte du passé, dans la mesure où il se remémore le passé, mais certainement pas pour n'en rien faire. Le passé doit devenir une sorte d'avenir, le passé est une tâche tournée vers l'avenir. » Fin de citation. Il y aurait comme une archéologie du futur, une archéologie pour le futur. C'est peut-être, au-delà de la connaissance du passé, l'une des dimensions éthiques de l'archéologie. On peut aussi penser à cette profonde réflexion de Walter Benjamin. Le passé est chargé d'un indice secret qui le désigne pour la rédemption, Paul Salmona.
Alors, j'ai organisé, lorsque j'étais à l'INRAP en 2005 ou 2006, un colloque assez important au Centre Pompidou qui s'intitulait « L'avenir du passé » sur les usages prospectifs de l'archéologie dans beaucoup de domaines, hein, et notamment dans un domaine tragique qui est celui de l'archéologie médico-légale, qui a été très fondamental pour documenter les crimes de guerre au Rwanda ou en ex-Yougoslavie. Mais paradoxalement, enfin, je vais vous faire une réponse ambivalente, on dit souvent que la connaissance du passé permet de penser le futur, hein, c'est un petit peu un lieu commun. J'en suis pas si sûr. Hein. L'école archéologique allemande, j'ai dit la dernière fois, était une très grande école scientifique et ça n'a pas empêché l'Allemagne nazie d'inventer la destruction industrielle de masse. Et quand on nous pose la question de savoir à quoi servent l'archéologie ou l'histoire, hein, d'ailleurs c'est aussi vrai pour l'histoire, par provocation, moi je suis souvent tenté de répondre à rien, simplement à assouvir notre soif de connaissance. Hein. La connaissance, c'est une fin en soi. Alors évidemment, si la connaissance sert de manière prospective ou de manière politique, au bon sens du terme, pour la vie de la cité, tant mieux. Évidemment, quand j'entends le maître à penser du mouvement catholique intégriste Civitas, l'été dernier, dans son université d'été, regretter qu'on ait naturalisé les Juifs en 1791 et faire démarrer là les problèmes actuels de la France, je suis scandalisé, comme beaucoup d'entre nous. Parce qu'évidemment, ce que la connaissance nous apprend, c'est que les Juifs n'étaient pas des étrangers en France alors, c'était des sujets sans droit, hein, mais ils étaient en France parfois depuis des siècles et des siècles. C'est donc une contre-vérité historique, leur présence est attestée depuis des siècles par l'archéologie, et aussi par les sources textuelles. Et là, la connaissance a une fonction politique, elle a une fonction prospective, bien sûr, pour lutter contre ces idéologies délétères.
Alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, l'archéologie du judaïsme en Europe, c'est l'intérêt porté non seulement à tel ou tel édifice, à tel ou tel lieu précis, mais à des ensembles, des quartiers entiers, juiveries ou ghettos. Je pense aux bâtiments médiévaux du culte juif de Trèves, à la juiverie médiévale du château de Lorca en Espagne, à la caille de Perpignan, au quartier juif des villes bavaroises médiévales, ou encore à cette carrière en Comtat-Vénessin, découverte récemment à l'Isle-sur-Sorgue. Que nous apprend cette archéologie urbanistique, Paul Salmona ? Quelles idées reçues permettent-elles peut-être de remettre en question ?
La première idée reçue, c'est l'idée du ghetto fermé. C'est l'idée de la juiverie fermée sur elle-même, fermée à clé la nuit, qui est en réalité une invention du XVe siècle. On l'a évoqué la semaine dernière, du XVe siècle à Genève et du XVIe siècle en Italie. Ce que montrent notamment les travaux d'Isabelle Rémy et d'Emma de Catafo à Perpignan, où ils ont fait vraiment la synthèse de l'ensemble des travaux archéologiques au fil des décennies, j'ai envie de dire. Hein. L'archéologie, c'est comme l'histoire, c'est une science cumulative. Hein. On additionne les données, d'où l'importance de la documentation qu'on évoquait tout à l'heure. Et on se rend très bien compte à Perpignan que ce quartier n'était pas un ghetto. Maintenant, on connaît beaucoup mieux son organisation. Il y a une vraie complémentarité entre les études de topographie urbaine qui sont fondées sur les archives textuelles, sur les inventaires après décès qui permettent d'identifier les confronts de la maison d'un défunt, par exemple, hein, ou les testaments, etc. Et puis, l'archéologie et la confrontation entre ces deux types de données permet de reconstituer parfois la géographie très précise d'un quartier. Vous l'évoquiez pour Erfurt ou pour Trèves, c'est le cas dans l'ouvrage, on a des études magnifiques là-dessus. Et notamment, ça montre cette porosité entre quartiers juifs et chrétiens, cette porosité de l'habitat de ces quartiers juifs, où bien sûr les juifs se regroupaient autour de la synagogue, du bain rituel, d'un édifice communautaire, d'une maison de l'aumône ou d'une boucherie cachère tout simplement, mais de manière très poreuse avec la population environnante.
C'est-à-dire que lorsqu'on voit dans toutes ces villes de Normandie rue des Juifs, rue de la Juiverie, etc., c'était pas nécessairement des quartiers fermés comme on a l'habitude de le penser à cause du terme de ghetto, qui a pris ce sens beaucoup plus tardivement, ça peut être à cause du ghetto de Venise, qui était quand même fermé, mais toutes ces juiveries n'étaient pas des quartiers fermés.
Non, c'était des regroupements de populations par affinité culturelle, linguistique, religieuse, mais avec une grande porosité, comme les regroupements de populations aujourd'hui dans les villes modernes, enfin dans les villes actuel, où effectivement on va s'installer près de parents, de cousins, d'amis, et partager des lieux de vie commune qui aujourd'hui peuvent être des lieux de culte, mais peuvent être aussi des cafés ou des restaurants, par exemple.
Mmh. Alors je sais que vous avez un faible pour la découverte d'un sarcophage double fait à Arles en 2009 avec une inscription qui est sans doute la plus ancienne inscription juive de Gaule datant du 3e siècle. Quelle est l'importance de cette découverte pour le judaïsme d'Europe et pour le judaïsme de cet espace de la Gaule qui va devenir plus tard la France, Paul Salmona?
Alors, c'est une découverte absolument fondamentale. Hein. C'est un sarcophage qui a été découvert en 2009 lors d'une tranchée de travaux publics dans le quartier de Trinquetaille à Arles, qui a été fouillé par Alain Genot, qui est archéologue au musée de l'Art antique. C'est un sarcophage double, donc avec deux grandes alvéoles, relativement sobre du point de vue de son décor, avec un grand cartouche sur une des faces, donc une surface lisse gravée, avec l'inscription « Pompeia Iudea et Cossutius Euticles ». Et donc on présume qu'on a affaire à une épouse et son mari, Pompeia et Cossutius, et Pompeia, Pompée, est très clairement désignée comme juive, hein, Pompée la juive. Et si le prénom Pompée est assez courant en Arbonnaise, donc dans cette partie de la Gaule, hein, au IIIe siècle, stylistiquement le sarcophage est datable du IIIe siècle. Si Pompeia c'est assez courant, en revanche, Iudea, c'est un unicum. Et donc c'est la première juive de l'histoire de France, on pourrait même dire le premier juif attesté épigraphiquement de l'histoire de France. C'est une découverte d'autant plus importante que on pouvait présumer qu'il y avait une communauté juive dans l'Antiquité à Arles, comme il y en avait une à Ostie, où il y avait une communauté juive importante, comme à Rome bien sûr. Arles était un grand port fluvial, donc tout ça est tout à fait présumable. Encore fallait-il que ça soit attesté par l'archéologie. On peut espérer qu'un jour on découvrira une synagogue antique à Arles. En tout cas, il était important de le mentionner parce que c'est la première attestation, si vous voulez. On a quelques autres vestiges, mais qui ne sont pas des vestiges nominatifs. Il y a une petite lampe romaine à décor de chandelier à sept branches qui a été trouvée à Orgon, près de Cavaillon, en 1967, par Francis Hoffmann. Il y a une autre lampe qui a été trouvée près de Bagnols-sur-Cèze, donc on est toujours dans le sud de la France, hein, qui est la première partie de la France qui a été romanisée. Hein. La Narbonnaise a été conquise en 121 avant notre ère. Et donc, il est très vraisemblable que les Juifs ont suivi les armées romaines. Les Juifs dans l'Empire romain étaient très nombreux, et à Rome notamment.
Et donc, ça veut dire que les Juifs étaient présents en France, enfin, de ce qui allait devenir la France, depuis au moins le 1er siècle, en tout cas au 3e siècle, c'était quelque chose de bien installé.
Bah, en effet, la lampe d'Orgon, on n'est pas certain qu'elle ait appartenu à un juif. Si c'était un juif, il n'était pas forcément sédentarisé en Provence, hein, dans la vallée de la Durance. Ça pouvait être un voyageur, c'est peut-être le reste d'un barda de voyageurs. Tandis que le sarcophage, là, évidemment, on a affaire à une pratique funéraire très, très institutionnalisée. Hein, donc là, ça change de nature. D'ailleurs, on a des archives textuelles un peu plus tardives qui attestent l'existence d'une communauté juive à Arles.
Dans les fouilles de l'archéologie du judaïsme en France et en Europe, il y a un élément qui revient souvent, en tout cas dans les livres que vous nous offrez, celui des bains rituels qui semblent jouer un rôle particulièrement important dans la vie juive jusqu'à aujourd'hui. Comment ces bains rituels, mikvé en hébreu, mikvaot au pluriel, se présentaient-ils? Quelles étaient leurs fonctions au sein des communautés? Est-ce que c'était seulement un souci de pureté rituelle ou peut-être aussi cela avait valeur sanitaire? Et pourquoi sont-ils si bien conservés, Paul Salmona?
Alors, il faut peut-être dire en préalable que de cette présence juive, au fond, il reste assez peu de marqueurs. Parce que ce que les archéologues appellent la culture matérielle, c'est-à-dire l'ensemble des objets de la vie quotidienne, au fond, à quelques exceptions près, ce sont les objets de monsieur et madame tout le monde. Hein. Les juifs sont des hommes et des femmes comme les autres. Et d'ailleurs, on voit bien dans les inventaires après décès qu'on a en Provence. En Provence, on a un corpus d'archives textuelles un peu plus important qu'ailleurs parce que l'expulsion n'a eu lieu qu'en 1501, alors que la principale expulsion du royaume de France date de 1306, hein, Philippe le Bel. Et donc, on voit bien dans les inventaires après décès que l'essentiel du mobilier, des objets, de ce qui est légué, c'est des objets usuels. Et par ailleurs, quand les Juifs ont été expulsés, on peut présumer qu'ils sont partis avec leur mobilier rituel, donc leur chandelier, leur hanoukiot, donc leur lampe de Hanouka, évidemment leurs livres. Une des choses qu'on voit d'ailleurs dans les inventaires, c'est qu'ils ont des livres. Hein. C'est quasiment un invariant anthropologique. Qu'est-ce qui définit les Juifs à travers le temps? On pourrait presque dire c'est pas nécessairement des critères religieux. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas toujours des critères religieux. En revanche, ils ont des livres, ça c'est certain. Et au Moyen-Âge, c'est tout à fait frappant. Et au Moyen-Âge, c'est très exceptionnel. Alors, pour revenir à votre question sur les bains rituels, les mikvaot, pourquoi est-ce qu'on retrouve les mikvaot? Eh bien, parce qu'ils sont profondément enterrés pour atteindre la nappe phréatique. La loi religieuse juive, la halakha, prescrit que dans un mikvé, l'eau doit circuler, hein, l'eau doit être d'origine naturelle, donc ce peut être, c'est principalement l'eau de la nappe phréatique ou éventuellement l'eau de pluie, si, faute de nappe phréatique. Comme ils sont profondément enterrés, s'il y a des remaniements du quartier, très souvent, ben, ils sont laissés en l'état, parfois comblés, et on peut éventuellement les retrouver des siècles après, sans qu'ils aient été démolis. Alors on en a toute une série d'exemples, hein. Un des exemples les plus conséquents, c'est celui de Cologne, où on a un mikvé monumental, roman, enfin de style roman, absolument magnifique, somptuaire, extrêmement large et extrêmement profond. Il descend à 14 mètres sous terre pour atteindre le niveau de la nappe phréatique du Rhin. Plus récemment, on en a découvert trois à Pernes-les-Fontaines, qui est un village absolument ravissant du comtat venaissin, à côté d'Avignon. Donc deux sur l'ancienne place de la Juiverie, qui était construite au Moyen-Âge et qui a été démolie au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Là, on a probablement d'ailleurs affaire à des bains rituels privés, mais il faut dire que ce village, il y a de l'eau partout, hein, il est caractérisé par ses 42 fontaines. Et puis on vient d'en découvrir un, enfin d'en identifier un, c'est pas véritablement une découverte archéologique, mais Claude de Mecknem, qui connaît bien ces monuments, a confirmé l'identification dans les sous-bassements d'un salon de coiffure à Châlons en Champagne, où on sait qu'au Moyen-Âge il y avait une communauté juive, où on a d'ailleurs, lors d'un diagnostic archéologique il y a quelques années, identifié le jardin des Juifs, donc un petit cimetière juif.
Alors la fonction de ces mikvés qu'on retrouve parce qu'ils sont enterrés profondément, bain rituel, pourquoi? Et est-ce que ça avait une fonction simplement de bain rituel ou aussi de bain public?
Alors ça, c'est une grande question. Le bâtiment ne nous le dit pas. Hein. On sait que les mikvaot servent pour accomplir un certain nombre de prescriptions religieuses, et en particulier pour les femmes après leurs règles. Il est certain que c'est une caractéristique d'un équipement d'hygiène publique qui est singulier aux communautés juives, qui serait banal dans l'Empire romain où il y a des thermes partout, qui est beaucoup plus original au Moyen-Âge où l'hygiène n'était pas du tout du même niveau.
Es war spät abends, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen. Nebel und Finsternis umgaben ihn. Auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor. Dann ging er ein Nachtlager suchen.
Il était tard le soir lorsque K arriva. Le village était enfoui sous la neige. On ne pouvait voir la colline du château, le brouillard et la pénombre l'environnaient. Il n'y avait pas la moindre lueur indiquant le grand château. K resta un moment sur le pont de bois qui relie la route au village, les yeux levés vers ce qui semblait être le vide. Puis il se mit en quête d'un gîte pour la nuit.
On reconnaît les premières lignes du château de Franz Kafka dans sa version originale en allemand, suivie de la traduction française donnée dans le cadre d'une production de France Culture en 2010, réalisée par Stéphane Michaka. Je sens, Paul Salmona, que vous vous demandez pourquoi Kafka s'invite dans une émission sur l'archéologie. Bien sûr, K, le personnage du château, est un arpenteur, presque un archéologue, et Kafka inventa des créatures, humaines ou animales, dont la vocation était de creuser. On peut citer le terrier, par exemple. Mais si je vous ai fait entendre ces premières lignes du château qui évoquent l'arrivée de K, c'est parce que le mot château, Schloss en allemand, est amphibologique et signifie à la fois le château, mais aussi la serrure. Et j'ai été très frappé dans l'article intitulé « Perspectives archéologiques sur les cimetières d'Europe centrale » de Magdalena Bis et Kalina Skora, deux chercheuses de l'Institut polonais d'archéologie, par cette découverte faite dans de nombreuses tombes juives en Europe, la présence de cadenas, de serrures, dont la fonction reste encore à déterminer précisément, Paul Salmona.
Alors, on ne peut faire que des interprétations, hein, puisque par définition, la fouille archéologique ne nous donne pas le mode d'emploi de l'inhumation. Ce qui est certain, c'est que Magdalena Bis et Kalina Skora ont fait un travail magnifique de recension de l'ensemble des données archéologiques sur les cimetières juifs d'Europe centrale et orientale, en particulier l'ancienne Tchécoslovaquie, la Pologne, la Lituanie. Et c'est un travail d'autant plus important que dans ces régions, à la période soviétique, les cimetières juifs ont été particulièrement maltraités, en tout cas pas considérés comme du patrimoine archéologique. Et donc il y a beaucoup de données qui ont été perdues. C'est une région où la population juive était extrêmement importante. Hein, on a affaire à des milliers de cimetières. Et dans un certain nombre de ces cimetières qui ont été fouillés, documentés, on a retrouvé en effet des cadenas dans les tombes. Et c'est massif. Alors ça n'est pas vrai à l'ensemble de l'Europe, hein. C'est vrai pour l'Europe centrale et orientale. On retrouve des cadenas dans les inhumations et on retrouve parfois des pierres sur les yeux, hein. Donc on les retrouve évidemment sur le crâne, les yeux ont disparu. Alors je ne sais pas si c'est là pour ouvrir les portes du passé ou si ça n'est pas là plutôt pour enfermer le défunt dans sa tombe et éviter qu'une âme errante vienne posséder les vivants, hein. Donc ce que nous connaissons bien depuis Anski comme étant le Dibouk, hein, qui a été l'une des pièces de théâtre fondée sur un travail de collecte ethnologique au début du XXe siècle, et qui a été l'un des succès les plus importants internationaux du théâtre juif, hein. Nous allons d'ailleurs lui consacrer une grande exposition à partir de la fin du mois de septembre au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et donc l'idée est probablement, mais c'est une supposition, de faire en sorte, par une pratique magique, que l'âme du défunt reste avec ses restes matériels et n'aille pas errer et posséder les vivants, ce qui pose un certain nombre de problèmes. On sait, hein, que cette croyance dans les Dibouk est extrêmement présente dans les milieux hassidiques en Europe centrale et orientale. Ça a été très bien documenté, très bien étudié. Il y a notamment des travaux de Jean Baumgarten là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que l'archéologie montre là que les pratiques effectives ne sont pas conformes à la loi religieuse juive. Hein, ce qui est très fréquemment le cas. En vérité, il y a très souvent un écart entre la réalité des pratiques et puis la norme, que ça soit la loi républicaine ou la loi du royaume ou la loi religieuse, peu importe. Et là, l'archéologie le montre très bien. Il y a d'autres pratiques magiques dont le monde juif qui sont évidemment pas du tout halachiques. Là, on en a une preuve matérielle et c'est très spectaculaire, cette présence de cadenas, parce que on a affaire à un objet matériel incontestable.
Qui est beau d'ailleurs, quand on le voit, il y a des photos dans le livre. La question que je me suis posée, c'est les dates de ces cadenas, c'est-à-dire, j'ai eu l'impression qu'on en retrouve jusqu'à des inhumations récentes.
Tout à fait, on en retrouve jusqu'au XXe siècle, hein, c'est de mémoire du XVIIIe au XXe siècle, ça correspond d'ailleurs tout à fait au chassidisme en fait. Hein. Alors je ne dis pas que ça soit nécessairement des pratiques chassidiques, parce qu'en vérité on ne le sait pas. Et il y aurait un vrai travail, enfin il y aurait un travail plus poussé que ne l'ont fait Magdalena Bis et Kalina Skora pour essayer de corréler les données qu'on a sur ces cimetières lorsqu'ils ont été fouillés et ce que l'on sait de la cosmogonie de ces communautés, en fait, hein, des pratiques religieuses et de la conception du monde de ces communautés.
Alors, vous avez évoqué ces cimetières très nombreux de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Et cette question nous amène directement à un autre aspect de l'ouvrage « L'archéologie du judaïsme en Europe », à savoir le lien entre l'archéologie et la Shoah, qui est le thème de la quatrième partie de votre ouvrage. Deux articles dus respectivement à Benoît Pouvreau et Johan Haller y sont consacrés et traitent particulièrement de Drancy. Grâce à eux, la cité de la muette, c'est son nom, commence à parler, Paul Salmona.
Oui, la cité de la muette, c'était un ensemble HLM de logements sociaux qui était inachevé en 1939 et qui a servi de camp d'internement, par lequel sont passés la très grande majorité des Juifs de France qui ont été déportés vers les camps d'extermination. Et il se trouve que le bâtiment, comme c'est un bâtiment pionnier en matière d'architecture moderne, il a été classé. Et les travaux qui ont été réalisés en 2009 ont été suivis avec beaucoup d'attention. Et on a retrouvé, à l'occasion de ces travaux de rénovation, puisque la cité a recouvré sa vocation de logement social après la guerre, et on a retrouvé près de 70 carreaux de plâtre avec des inscriptions des déportés, leurs noms ou les noms des familles, des messages, des poèmes, des dessins, des dates de départ, parce qu'en fait c'était devenu un rituel, hein, on écrivait son nom avant de partir, et qui sont en fait des documents tout à fait inédits sur les déportés, et que Benoît Pouvreau, qui est l'archiviste de Seine-Saint-Denis, a corrélé avec les travaux de Serge Klarsfeld, hein, du mémorial de la déportation des Juifs de France, et parfois on a des renseignements complètement inédit, qu'on a nulle part ailleurs. Et c'est un corpus archéologique tout à fait original qui est maintenant aux Archives de France, à Pierrefitte. Je crois que c'est le seul corpus archéologique en carreaux de plâtre aux Archives nationales. Et d'ailleurs, dans le futur parcours permanent du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, nous avons l'intention d'en présenter quelques-uns, ce qui sera une manière de montrer à travers un objet matériel, de rappeler ce qu'a été la déportation des Juifs de France. Alors vous évoquez Johan Haller, qui est une chercheuse indépendante, une historienne, qui a fait un travail d'archéologie de surface, entre guillemets, complémentaire. Après avoir travaillé sur les pompes funèbres juives sous l'occupation, qui sont une exception à l'aryanisation des entreprises juives à Paris, puisqu'ont été conservées deux entreprises de pompes funèbres juives en dépit de l'aryanisation, elle a travaillé sur les morts de Drancy et de l'hôpital Rothschild sous l'occupation. Pendant très longtemps, on a pensé que ces morts, près de 300, avaient été jetés dans une fosse commune. Hein. Une fosse commune qui se révèle un mythe en réalité, et elle a pu montrer, en arpentant, un peu comme Gérard Naon, le cimetière de la Bastide Clérance dans les années 60, avec une truelle, un grattoir, une pelle, un balai, etc., mais avec un magnétophone pour enregistrer ses constats, elle a pu démontrer qu'en réalité, la plupart des morts à Drancy et à l'hôpital Rothschild ont été inhumés dans des sépultures individuelles par l'Union Générale des Israélites de France. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'elle montre aussi comment, selon que le défunt n'a plus de famille en raison de la déportation de l'ensemble des membres de la famille ou qu'il y a eu des survivants, la tombe a été entretenue ou déplacée ou bien qu'elle a totalement disparu. Dans certains cas, lorsqu'ils ont été déclarés morts pour la France, ils ont eu droit à des concessions perpétuelles. Hein, c'est une prérogative qu'avaient les morts pour la France. Et donc, dans certains cas, eh bien, la tombe existe toujours. Dans d'autres cas, la tombe a disparu. On en retrouve à peu près 70. Et donc là, elle a fait un travail, j'ai envie de dire, de romain, parce que il y a 7 cimetières. C'est des mois et des mois d'arpentage de ces cimetières, comme votre personnage du château de Kafka. Et on sait maintenant beaucoup mieux ce qui s'est passé et pendant l'occupation pour les inhumations et après.
Vous concluez votre introduction de l'ouvrage « L'archéologie du judaïsme en Europe » avec une photo de l'œuvre de Micha Ullmann, la bibliothèque engloutie, qui était le point de départ de nos deux semaines de conversation, une œuvre en regard de laquelle vous écrivez que les enjeux de l'archéologie du judaïsme en France et en Europe ne sont pas seulement épistémiques, mais aussi politiques. Cela mérite commentaire et merci de nous dire pourquoi vous avez tenu à conclure votre introduction par la photo et la présentation de cette œuvre de Micha Ullmann, Paul Salmona.
Alors, bibliothèque, puisque c'est son nom, avec un K à la fin, est une œuvre très singulière. C'est pas à proprement parler de l'archéologie, bien sûr, c'est une œuvre contemporaine, qui est une pièce vide, creusée, avec des étagères à l'intérieur, creusée sous le sol de Bebelplatz, hein, devant l'université Humboldt à Berlin, là où les nazis ont organisé les autodafés. Et c'est une bibliothèque vide qui évidemment évoque la destruction de la culture juive allemande, hein, et au-delà même d'ailleurs de la culture juive, puisque les autodafés nazis allaient bien au-delà, on le sait notamment avec ce que les nazis avaient appelé l'art dégénéré. Donc on aperçoit ces étagères vides à travers d'épais carreaux de verre dans le sol de la place, et on pourrait imaginer qu'il y ait l'équivalent, par exemple, devant l'Hôtel de Ville à Paris, hein, où Saint-Louis a fait brûler, au milieu du XIIIe siècle, 24 charretées de Talmud. Il faut imaginer ce que représentent 24 charretées de manuscrits hébraïques médiévaux. C'est un patrimoine entier qui a été détruit à l'époque. Et je trouve très beau l'emprunt par Micha Ullmann à l'archéologie, à l'idée de l'enfouissement et de cet enfouissement d'un vide. Une des vertus de cette œuvre, c'est évidemment de rappeler de manière assez subtile, en plein centre de Berlin, ce qu'a été la destruction de la culture par le nazisme, de la culture et de la population, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, la métaphore porte sur la culture, et c'est un rappel au vivant de ce qu'a été le passé nazi et la destruction des Juifs d'Europe. Donc évidemment, c'est un enjeu politique très important au moment où l'antisémitisme connaît un regain stupéfiant en France et en Europe.
Merci Paul Salmona pour ces deux semaines de conversation absolument passionnante. Je rappelle le titre de l'ouvrage qui a servi de point d'appui à nos échanges, L'archéologie du judaïsme en Europe, publié sous votre direction, et celle de Philippe Blanchard et Amélie Sagasser. On y découvre une vingtaine de contributions riches et pleines de révélations qui feront date dans la recherche et qui ouvrent des pistes de réflexion fondamentales sur le travail de l'archéologie, sur ses enjeux et les avenirs qu'elle contribue à construire. Merci encore Paul Salmona.
Merci Marc-Alain Wotnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Manuel Couturier, à la réalisation Max James. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.